J-57 pour l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain qui se déroulera du 7 au 26 juillet prochain dans la Cité des Papes. Il était une fois, c'est le thème de cette 76e édition qui met résolument à l'honneur la jeunesse, l'écologie, le vivant sous toutes ses formes, mais aussi et surtout les femmes. Sur 46 spectacles, 27 sont portés ou dirigés par ces dernières. Le 10 mai 2022, à 19h, à Avignon Université sur le campus Hannah Arendt, a eu lieu la présentation de la programmation de la 76e édition du festival en compagnie d'Olivier Py, le premier metteur en scène à diriger le festival depuis son fondateur Jean Villard. C'est la 9e et dernière année de direction pour Olivier Py. Il passera le flambeau au metteur en scène et comédien portugais Tiago Rodriguez à partir du 1er septembre 2022. Pour cette présentation, on retrouve aux côtés d'Olivier Py, Michel Flandrin, ancien animateur culturel à France Bleu Vaucluse. Lumière sur une programmation internationale qui s'annonce donc féministe, poétique et définitivement ancrée dans des dynamiques politiques. À vos programmes donc, au micro de Fréquence Mistral Avignon.
Après deux ans d'absence, on prend un rendez-vous traditionnel un petit peu plus tôt d'ailleurs pendant l'année, puisque généralement on se voit vers le milieu du mois de juin. Cette année, on vient d'avoir des places qui vont se libérer dès la semaine prochaine. On en parlera à la fin de cette présentation. Le Festival d'Avignon, la 76e édition, ce sera du 7 au 26 juillet. 46 spectacles, 400 rendez-vous en tout, 270 km d'eau. 145 000 places disponibles. Olivier, est-ce qu'on peut dire que ce sera un beau festival normal?
Ce sera, comme chaque année, le plus beau de tous les festivals et de l'histoire des festivals. Mais c'est vrai que sur le plan strictement quantitatif, il est à peu près semblable au dernier.
Au niveau du déroulement, on va retrouver nos habitudes post-Covid, pré-Covid plutôt.
Oui, même si nous commençons cette année un peu tard, à cause des calendriers d'éducation nationale, malheureusement ça ne nous appartient pas, c'est la raison pour laquelle on commence un petit peu tard. Et puis tu avais raison de rappeler que nous essayons cette année, le 21 mai, de faire une pré-vente par Internet des places. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un gros embouteillage quand les places deviennent disponibles sur Internet, et on espère le soulager un petit peu par cette journée exceptionnelle.
Alors, nous allons feuilleter le programme du festival. On ne va pas faire compliqué, on va faire page par page. Ah, voilà. Et à chaque fois, pour ceux qui seront un peu perdus, il y aura le numéro de la page qui va s'afficher. Alors, si on ouvre le programme du festival, on tombe sur l'éditorial du directeur. Et dans cet éditorial, Olivier, par exemple, vous opposez les idéologies et les histoires.
Oui, mais je crois que la dernière élection présidentielle l'a bien prouvé. Ce ne sont pas forcément les idéologies qui guident l'engagement politique, mais ça peut être aussi des fictions au sens positif comme au sens négatif, des mythes au sens positif comme au sens dévastateur. Bref, des histoires qu'on se raconte. Quand on n'a pas d'histoire, on se raconte des histoires. Et donc, on avait choisi cette formule extrêmement bateau, il était une fois, pour être la formule qui coule et qui donne une cohérence à ce festival. Alors, il était une fois aussi, c'était une manière élégante de finir, puisqu'en général, c'est une formule qui ouvre quelque chose. Je l'espère, tout ce qui se termine pour que quelque chose commence. Et donc, il était une fois. Et puis, moi, je suis un grand pourvoyeur d'histoire, j'aime les histoires. Je me suis dit que je pouvais aussi faire un dernier coup de chapeau à ceux qui veulent encore nous raconter des histoires en espérant qu'on y trouvera du sens.
Et puis, dans cet éditorial, toujours, une deuxième opposition tout à fait passionnante entre la foule et le peuple.
Oui, parce que j'entends encore, et j'entendrai sans doute encore, et je pense que mon successeur, Tiago Rodriguez, l'entendra encore et encore et encore, le festival serait élitiste, n'est-ce pas? Alors, quand les gens disent ça, en général, c'est qu'ils ne sont jamais venus au festival. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est souvent des inclus, c'est-à-dire des gens de l'élite qui disent ça. Ça aussi, c'est très intéressant. la culture des inclus, on n'a pas fini d'en parler. Et puis enfin, c'est parce qu'ils confondent l'audimat et ce qu'est le peuple. Alors, quand on dit qu'on fait du théâtre populaire, moi je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire ces dernières années, de défendre le théâtre populaire, on ne peut pas le dire avec la grille de perception et d'intelligence de l'audimat. C'est tout à fait autre chose. Ce qui fait le peuple et le populaire à Avignon, non, c'est pas l'audimat. Ce qui fait l'audimat, c'est la foule. Et là, il y a une différence fondamentale, notamment en termes politiques et en termes de démocratie. Ce que nous devons espérer, c'est que notre démocratie est encore une démocratie populaire, qu'elle est la volonté du peuple, et non pas de la foule. Qu'est-ce qu'elle fait, la foule? Ben, par exemple, elle fait des lynchages médiatiques, elle peut faire ça. Ça, c'est pas le peuple qui le fait. Et puis, j'ai un peu vieilli, je me suis rendu compte de quelque chose, le peuple a raison. Alors, on dit quelquefois qu'il a tort, mais non. Quand il a tort, c'est souvent la foule, et pas le peuple. Le peuple, il a raison. C'est lui qui a raison. C'est lui qui sait. C'est lui qui désire quelque chose, c'est lui qui veut un meilleur avenir pour les enfants, c'est lui qui défend l'éducation nationale, c'est lui qui sait qu'on a besoin d'un service public. Et ça, c'est pas la foule, c'est le peuple. Ben, c'est à ce peuple-là qu'on parle au Festival de Lyon.
Merci beaucoup. Et ça fait vous commencer. Cette phrase qui est très belle aussi quand même, surtout par rapport à ce qu'on vit au jour, le théâtre nous aide à vivre, à survivre et à revivre.
Oui, mais c'est un peu bateau, ça, quand même.
Oui, c'est une belle formule.
Un peu de caricature de moi-même. Mais bon, à survivre sans doute, parce qu'on a vécu des moments difficiles, on vit des moments difficiles, et je crois profondément qu'on a un besoin vital de ce qu'on pourrait appeler la vie de l'esprit, de la pensée, de l'intelligence et la beauté. À vivre sans doute, parce que justement, quand on raconte des histoires, quand on est face à des modèles poétiques, notre vie est meilleure. On apprend à aimer, souvent dans les livres, et donc on vit mieux. La vie est meilleure quand on est proche de la poésie et quand on est proche de l'art. La vie est plus belle. Et puis, peut-être à revivre, oui, quelquefois, mais ça c'était évidemment le contexte, j'ai envie de dire post-pandémique, mais elle n'est pas tout à fait finie, malheureusement. En tout cas, cet isolement qu'on a dû vivre, qui je crois a cassé quelque chose, a changé profondément les comportements, on n'en a pas encore jaugé toutes les conséquences. En tout cas, il y a une conséquence directe, les hommes et les femmes qui ont vécu ce confinement ont perdu une certaine habitude à sortir. Les salles ne se sont pas remplies immédiatement quand les théâtres ont réouvert, et on peut penser que dans les années à venir, le virtuel, malheureusement, deviendra la norme et non plus le présentiel, un mot qui est apparu. La seule apparition de ce mot fait déjà qu'il y a un avant et un après le confinement. Donc ça nous sert à revivre, bien sûr, aller au théâtre, ça sert à ça, à revivre.
On va commencer à parler des spectacles avec le premier sur la page 4, donc c'est Un Transit, des anciens paramis Rezac Oestany. Il y a déjà eu un festival, hein, il y a eu E-Wing, qui avait été donné à la salle Benoît XII en 2016, et puis Sommerlès, c'était dans le kiné de la Chartreuse de Villeneuve des Avignons. Un très beau dialogue, c'était sur devant la façade d'une école, je me souviens, avec un peintre qui effaçait des graffitis et une mère qui attendait son enfant. Cet auteur, il a adapté un texte d'Anna Segers, une autrice allemande.
Oui, il lui est arrivé une anecdote qui n'aurait pu ne rester qu'une anecdote, et qui est au moment où il lisait ce roman, qui parle beaucoup de transit, de migrants, de migration, de difficultés, de frontières, il a été arrêté dans un aéroport et regardé son passeport. Et puis, il a eu la sensation, quand on lui prenait son passeport, pas du tout d'une perte d'identité, mais au contraire, de le vivre pratiquement comme une extase. Alors en partant de ça, il a raconté cette histoire dans son style à lui, qui est souvent fait litote. Je ne sais pas si c'est à cause de la censure qu'il a développé ce style-là. Quelquefois, dans les spectacles d'Amir Rezac Oestany, il se passe très très peu de choses. Mais ce très peu de choses est la partie immergée d'un iceberg qu'on sent très profond et très dangereux. Donc il a un style qui lui est propre. Je suis vraiment heureux qu'il revienne pour la troisième fois au festival.
Alors, les deux premiers spectacles étaient donnés en langue iranienne. Là, en fait, il va y avoir plusieurs langages, plusieurs langues dans le spectacle. Ça méritait d'être signé.
Il est meilleur que moi hein, sur la programmation. Bien vous le dire.
C'est moi qui l'ai fait.
Transit is a free adaptation of Anna Seeger's novel Transit. The novel talks about how difficult it is for the refugee to immigrate during World War II because of the long process of obtaining many different travel documents and visas. Coincidentally, even though, of course, I can't be compared to a refugee during the Second World War, when I was supposed to adopt the novel for a piece in Germany, I was detained in Munich Airport. So now this production is about 24 hours that I was detained in Munich Airport while I was reading Anna Seeger's novel.
Alors c'est Biphigénie de Thiago Rodriguez.
Voilà, c'est un jeune auteur pour qui voilà, tout grand bien.
On commence à connaître rapidement et qu'on va connaître encore mieux, je pense, à partir du 27 juillet. Thiago Rodriguez, ben, c'était son pour ce spectacle, cet hommage, ce magnifique hommage au théâtre dans le Poitre du Carme, Antoine et Cléopâtre. Tristesse et joie de la vie des girafes, hein, c'est un spectacle qui s'est dévoué au pénitent c'était le jeune public, et puis la cerise. L'année dernière, c'était dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Quelle est la spécificité de l'Iphigénie de Thiago Rodriguez?
D'abord, je trouve que c'est très important qu'on découvre ou qu'on redécouvre Thiago en tant qu'auteur, puisque c'est pas lui qui fait la mise en scène, c'est un hétéro. C'était pas tout à fait prémédité avec sa nomination à la tête du festival. Je crois pouvoir dire que c'est une Iphigénie féministe, enfin, que c'est vraiment le combat de ces deux femmes, l'Iphigénie et Clytemnestre, face à la violence du patriarcat.
La mise en scène est signée par quelqu'un qu'on aurait pu découvrir pour la première fois à Lumière en 2020, ça ne s'est pas fait. Et là, elle va revenir à l'interrompre, mais pas que le spectacle était prévu pour 2020, c'était qu'il remette en scène cette Iphigénie, précisant également quand même qu'il y a 27 spectacles qui sont dirigés ou portés par des dames dans la programmation.
Oui, on est pratiquement paritaire. À Epsilon près, j'aurais aimé pouvoir signer un festival, non pas paritaire, mais un festival où les femmes auraient été majoritaires, c'est ça mon but. Parce que philosophiquement, je ne suis pas pour la parité. Alors, philosophiquement, je me bats pour la parité politiquement, mais je ne suis pas d'accord philosophiquement. Je trouve qu'il faudrait que les femmes soient majoritaires, parce que je ne considère pas que l'humanité est binaire. Je pense qu'il n'y a qu'une seule humanité. Donc il faudrait être majoritaire. Ben, je ne suis pas arrivé, il appartiendra à Thiago qu'il y ait un festival où il y aura plus de femmes que de moi.
J'aimerais que vous disiez un petit mot sur la distribution, parce qu'il y a notamment deux acteurs qui sont un peu des figures tutélaires du théâtre, c'est Philippe Mourier-Genoux, qui est souvent venu à Avignon, et puis une actrice que j'ai souvent vue à Avignon dans des spectacles, écrits une certaine par un certain Olivier Py, Mireille Herzmeyer.
Difficile à penser, mais comme je crois avoir fait 12 ou 13 spectacles avec Mireille, j'ai quand même fini par pas trop mal prononcer son patronyme. Elle a été la compagne de route des débuts de Jean-Luc Lagarce. Enfin, Jean-Luc Lagarce n'est qu'un début d'ailleurs. Et c'est une, à mon avis, une des plus grandes tragédiennes françaises.
Si je devais résumer la pièce, je dirais que c'est l'histoire de deux femmes qui disent non. Non aux hommes qui décident pour elles de leur destin, non à la guerre, non au monde tel qu'il est, non à la mémoire qui nous fait faire n'importe quoi, non, 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 basta, ça suffit. Il est plus que temps de passer à autre chose. Ces deux femmes s'appellent Clytemnestre et Iphigénie. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, vous allez être surpris.
Comment ça se passe, vos rapports avec les acteurs? Parce que, bon, il y a Philippe Girard, Mireille Herzmeyer, dans La Servante, dont on parlera tout à l'heure, je me souviens d'Elisabeth Mazet, Michel Faux. Il faut quand même pas oublier que dans les premiers spectacles de Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, Orlando, et également les Parisiens, mais une certaine leur quand même dans la distribution. Quels sont vos rapports avec les acteurs? En fait, une certaine goutte avec eux, puis vous arrêtez? Comment ça se passe?
Ah, moi, je suis très fidèle. Je pourrais continuer toujours avec les acteurs que j'aime. Je suis très, très fidèle en amour. Et eux, ils en ont un peu marre au bout d'un moment. C'est légitime. Et puis, on se perd un petit peu, on se retrouve. Bon, on a aussi des rôles qui leur conviennent. Je suis très 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 soucieux de donner le bon rôle pour le bon acteur et le bon acteur pour le bon rôle. C'est une chose très fine, très complexe, mais je crois que quand on a réussi ça, on a fait 90% de la direction d'acteur et de la distribution.
Samuel Achache, on l'avait découvert au Festival d'Avignon au Cloître des Célestins, c'était en 2015 avec Fugue. Et là, on va le retrouver au Cloître des Carmes, toujours dans un cloître et sous le ciel, dans la nuit. Avec Saint-Tambour, là aussi, l'univers de Samuel Achache est très particulier parce que c'est un mélange de théâtre, de danse, que la musique est très très importante dans son travail.
La musique est toujours à l'origine de son inspiration. Là, c'est des lignes de Schumann. Mais après, ce qu'il en fait n'est pas forcément en lien direct avec la musique, encore moins en lien illustratif avec la musique. Je sais qu'il y a une maison qui s'effondre et que c'est un effondrement intérieur qu'il essaie de raconter et qui doit correspondre aussi à ce qu'il a entendu. En général, des spectacles très, très difficiles à raconter quand on ne les a pas vus et les récréations.
Par contre, si on aime Robert Schumann, on ne parle pas de spectacle, puisque la musique est signée Schumann.
Fontainebleau, c'est une création, c'est un spectacle qui mêle le théâtre et la musique et qui se crée à partir de Lieder Schumann, de Lieder Kreis du 39 et d'autres. Et c'est aussi à partir d'un effondrement. Ça commence avec un effondrement d'une maison qui petit à petit va s'effondrer, va se détruire, et avec les personnes qui vivent aussi à l'intérieur. Ça parle aussi de la question d'un effondrement intime. Mais se détruisant, en fait, cette maison, plus qu'elle ne se détruit en réalité, puisqu'elle s'efface, elle ouvre des espaces. Elle ouvre de nouveaux espaces, des espaces imaginaires, des espaces mentaux, des espaces de la mémoire. Et le travail avec la musique va consister justement à non pas détruire cette musique, mais de voir comment on peut aussi la déconstruire et à partir des traces, à la fois de cette maison et de cette musique, de leurs éclats, de leurs débris, de ce qui reste, qu'est-ce qu'on recompose et comment on recompose à partir de ces choses-là.
Ensuite, bien, on va aller dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Pendant des années, on a dit qu'on ne pouvait pas monter de Tchekhov dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et après est arrivé le plateau noble aux anciennes parrainées de la cascade, et on s'est aperçu que c'était faisable. Là, ça va faire la deuxième année consécutive que Tchekhov va ouvrir la cour d'honneur, le festival et la cour d'honneur du Palais des Papes, après la cerisée l'an dernier. Ce sera le Moine Noir, une nouvelle fantastique de Tchekhov. Alors ça, je ne savais pas qu'il avait écrit des nouvelles fantastiques.
Non, moi non plus. Je ne savais pas, je ne l'avais pas lu, je le dis très humblement, mais heureusement, et d'ailleurs, Cyril m'a fait découvrir ce texte que je trouve totalement magnifique, qui est très éloigné de son écriture théâtrale, qui est fantastique, qui ressemble peut-être à du Edgar Allan Poe. Ce n'était pas du tout prémédité qu'il y ait un deuxième Tchekhov deux années de suite, mais bon, j'ai laissé Cyril toute liberté pour choisir le texte qu'il voulait monter. Je n'ai pas non plus prémédité d'ouvrir avec un russe, et un russe dont on peut dire qu'il s'est opposé au régime de Poutine. Ce n'était pas du tout prémédité, on ne pouvait pas imaginer la catastrophe ukrainienne. Mais en tout état de cause, voilà, il sera là. Je suis assez heureux que notre Russie soit présente à Avignon et nous rappelle qu'il y aura peut-être un jour un après-Poutine.
Alors, le spectacle, il existe déjà, mais il va être entièrement repensé pour la cour.
Oui, le spectacle a été créé dans une première version au Thalia de Hambourg, qui est un théâtre, j'allais dire, normal. En tout cas, pas à ciel ouvert, pas comme la cour, pas avec les dimensions de la cour. Et donc, c'est une deuxième version avec des danseurs, avec de la musique qui va être proposée dans la cour. C'est une nouvelle très étrange et très difficile à interpréter. En substance, l'histoire est assez courte. C'est un homme qui a tout pour être heureux, qui épouse une jeune femme qu'il aime, qui est le gendre adoré de son beau-père, mais la nuit, il rencontre un moine noir, dont on ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas, qui lui demande de faire quelque chose de sa vie. Alors on ne sait pas si ce moine est à la fois l'inspiration poétique, la folie, la mort, mais en tout cas ce personnage de moine noir, réel ou pas, n'en finit pas de revenir jusqu'à ce qu'il est totalement détruit, tout ce qu'il faisait, le bonheur bourgeois qu'il avait construit. Et Kirill s'est proposé de raconter quatre fois la même histoire, avec chaque fois sous l'angle d'un des quatre protagonistes.
Yeah. cas. Le coup de bras Académie, qui est l'autrice, c'est-à-dire de l'affiche du festival de cette année.
Oui, elle est afghane, elle est réfugiée, elle est une militante féministe et une artiste. Elle a notamment défié les talibans dans des moments où elle apparaissait seins nus. J'étais assez surpris de voir que l'affiche pouvait créer quelques remous. Elle sera elle-même surprise de voir qu'il y a aussi des talibans en France. Et que donc son corps continue de poser problème à certaines personnes, même quand il est dessiné avec un peu de naïveté. Mais en tout cas, sur cette affiche, elle est libre d'interprétation, bien sûr, mais je pense que c'est elle-même qu'elle a représenté, à la fois dans un geste d'ouverture et puis en même temps dans un geste qui désigne le ciel. Je lui ai posé la question, elle m'a répondu que cette affiche-là était évidemment une affiche éco-concernée, puisqu'on voit l'orbe terrestre en or, plus tous les pas de cette jeune femme, et puis elle associe ses pieds aussi des petites feuilles vertes, qui sont, dit-elle, le symbole du printemps et de la nature, tout simplement. Donc c'est une affiche, en fait, que j'aurais voulu très douce et très apaisante. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est quand même la force de cet artiste qui n'a pas froid aux yeux, ni au nichon. Quand vous verrez son expo, quand même, tout n'était pas possible pour faire une affiche du festival. Et si on avait voulu faire un scandale, là, il y avait quand même quelques images qui ont été bien choisies. On a donc choisi la plus apaisée et ça a quand même eu fait une polémique, c'est bien.
Ce sera donc à la collection Lambert, elle présentera notamment des œuvres de tissus et de fils inspirées un peu par les tapisseries en particulier.
Strong performance at the 2012-13. First it comes with this interest of using my body in my work. I have to create a situation in which people, of course they are going to question a lot of things, but arrive to this level of like defining violence itself. I heard a lot within these 5-6 years that you're the first Afghan woman we have met. I have seen, wow. So this wow, you see, this makes you think. This makes me think of like about my own identity and how it's been seen to the world. So it is just, my country is a quite famous country. There's basically no image of woman. It's just image of warlords, image of like Taliban, image of like men.
Une autre exposition, alors une exposition qui concerne une personne nous accompagne. Toutes les photographies finalement faites au Festival d'Avignon depuis 2005 sont signées par lui. C'est Christophe Renaud Delage qui va investir. Il a commencé d'ailleurs à investir le premier étage de la maison Jean Villard avec l'œil présent. Ce ne sera pas tout à fait une exposition comme les autres.
Non, ce n'est pas un accrochage de photos récapitulatif et commémoratif. Ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. C'est presque une expérience immersive. C'est d'ailleurs Pierre-André Vetz qui a signé la muséographie, qui est le décorateur avec qui je travaille. Et puis, surtout, je pense que Christophe est beaucoup plus qu'un photographe au sens classique, un grand témoin de ce qu'est le festival. Alors, dans ces images, il n'y a pas que des images de spectacle, il y a aussi l'envers du décor, il y a aussi des spectateurs, il y a aussi toute la pensée du festival, de ce qu'est le festival, au-delà des spectacles et au-delà des plateaux. Moi, je suis très heureux de voir se déployer sa vision du festival. Et c'est un homme étrange parce qu'il a une très grande discrétion, ce qui doit être une qualité d'ailleurs pour les photographes. Donc, il a réussi à capter quelquefois des instants, mais souvent des instants paradigmatiques et fondamentaux de chaque festival. Quand je vois les photos qu'il a prises à la fin de chaque festival, je suis face vraiment à un récit. Et je pourrais dire vraiment en image, il était une fois le festival.
Cette année, j'ai le plaisir de présenter une installation photographique qui retrace mon parcours privilégié de spectateur. L'œil présent, photographie le festival d'Avignon au risque de l'instant suspendu à la maison Jean Villard.
L'enjeu de cette installation, c'était de recréer dans un parcours spectacle le rapport de la scène et de l'image. Alors le spectateur va être invité à visiter ce parcours, à visiter les dessous de scène, l'envers du décor, à être projeté dans ce que peut être ce qui fait théâtre, ce qui est la machine du théâtre. Et Christophe a voulu un parcours comme une pièce, en fait, avec des actes. Alors on va pouvoir être à la fois dans l'interaction du public, dans la magie et dans l'ombre des lieux, dans les défis de la cour d'honneur. C'est aussi le rapport aux témoins, ceux qui parlent des images, ceux qui revivent comme une réminiscence leurs émotions de spectateurs.
C'est que nous irons à la chapelle des Comités en Blanc, et ça c'est une volonté de votre part, dès que vous avez pris les rênes du festival, il y a des spectacles destinés au jeune public. On ne va pas tirer les kilos, mais enfin, est-ce que vous êtes satisfait de cette programmation et de la réception du public par rapport à ces spectacles que vous présentez régulièrement à ce festival?
Oui, et je dirais même plus que ça, fier de ce qu'on a pu faire, parce qu'il n'y avait pas, comme tu l'as dit, il n'y avait pas de programmation enfant dans le festival IN. Il y en avait une centaine dans le monde, donc ça me semblait incroyable. Tout le monde nous a dit qu'il ne fallait pas le faire, que ça ne marcherait pas, etc. Bon, c'est tout l'inverse qui s'est passé, avec un petit regret, c'est que quelquefois il n'y a pas assez d'enfants et que les places sont prises d'assaut, quelquefois par des professionnels, mais c'est pas grave. Le festival, il faut toujours s'en rappeler, est modélisant. Ce qui se passe au festival, après on va le retrouver dans l'ensemble du théâtre public et la décentralisation. Donc, affirmer que nous devons faire du théâtre pour les enfants, ou du théâtre scolaire, ou du théâtre public, les trois vont très bien, et quelquefois le même spectacle répond à ces trois nécessités. Je suis heureux de l'avoir fait, puis ça a donné de très très belles œuvres. Moi-même, j'ai eu un grand bonheur à le faire, j'ai fait deux fois. C'est fondamental de construire le public de demain. Bien évidemment, le directeur du festival n'est pas le seul à le faire. Chaque spectateur aussi construit le public de demain. N'hésitez pas à prendre sous ou par le bras votre petit-neveu, votre petite-nièce, parce que je crois qu'il faut très peu. Très très peu, juste une petite incitation, juste un petit moment privilégié pour que quelqu'un soit ouvert à la possibilité de la vie artistique, de la vie de l'esprit, et surtout pour qu'il sente qu'il a sa place. C'est très important. Quand quelqu'un rentre dans la cour du Palais des Papes et qu'il a son billet, eh bien il a sa place. Et nous lui disons, vous avez votre place ici. C'est donc bien une image de la République et de la démocratie que nous avons quand nous ouvrons une salle de théâtre.
Gretel Hansen et les autres, c'est une adaptation d'un conte des frères Grimm. Vous confirmez, les frères Grimm, c'est vraiment les plus grands, parce que vous êtes souvent affrontés aux frères Grimm.
Oui, évidemment que c'est les plus grands, c'est les génies absolus. Leurs 500 contes sont à mettre à côté des plus grands récits de l'humanité, c'est-à-dire à côté de tout ce que vous voulez, l'Odyssée, la Bible. Ils ont ouvert le romantisme allemand et le romantisme en général parce qu'ils ont été très très vite internationaux. On ne les connaissait pas très bien en France jusqu'à la traduction de Max Robert. Maintenant, on a des livres avec toutes les traductions de tous les contes. Ils disent qu'ils ne les ont pas écrits eux-mêmes, mais qu'ils les ont collectés ici et là en tentant de donner l'idée de ce qu'ils appelaient le Volksgeist, c'est-à-dire l'esprit du peuple. Avec l'idée justement que dans les salons, dans les élites, on a perdu quelque chose et qu'il faut aller dans le peuple entendre ces récits les plus fondamentaux. Ce sont des textes magnifiques, pas toujours pour les enfants, on leur a d'ailleurs reproché dans leur première édition parce qu'ils n'étaient pas assez moraux. Ce ne sont pas du tout des contes moraux, ce sont des contes initiatiques dans lesquels il y a presque toujours un traumatisme et une résilience. Alors on sait les Grettels, ça fait partie des contes dans lesquels le jeune enfant va à la découverte du monde. Ici, c'est une adaptation dans laquelle le monde n'a plus de saveur. Le monde des adultes n'a plus de saveur. Et donc ces enfants partent en quête du sel, du sucre et tout ce qu'il y a du goût.
Ce sera une mise en scène, une adaptation de Igor Menchinsky.
Gretel, Hansel et les autres va d'abord raconter l'histoire d'un pays où une chose bien étrange est arrivée et les saveurs ont disparu. Le sucré et le salé n'existent plus, les aliments sont fades. On ne se met plus à table, on ne cuisine plus, on ingurgite des gélules pour remplacer les repas. Ce qui, d'une certaine manière, arrange les parents qui, eux, sont de plus en plus pressés, mais qui trouble les enfants qui, eux, s'inquiètent de ne plus jamais rien manger de consistant. Dans ce pays, à l'orée d'une forêt hantée dont tout le monde a peur, vit un monsieur très riche, sa femme et ses deux enfants, Gretel et Hansel, qui, un soir, après l'école et la garderie, vont disparaître. Ils vont fuir de chez eux. D'une part parce qu'ils se sentent abandonnés par leurs parents qui travaillent beaucoup trop, et d'autre part pour répondre à l'appel de la forêt.
Alors on est bien heureux quand même d'avoir ces images, quand on pense qu'il y a quelques années, il n'y avait aucune image ni dans le programme, ni à la présentation, pas simplement parce qu'on voit de la vidéo, on a même trop de vidéos, mais simplement parce que du coup les artistes sont présents et qu'ils sont identifiés et qu'ils parlent évidemment beaucoup mieux de leurs œuvres que je ne le fais moi-même. Donc un grand merci aussi aux équipes de la com qui ont collecté ces petits films si nécessaires.
Ma jeunesse exaltée au gymnase au Banel, écrit, mise en scène par Olivier Pi. En 1995, le gymnase au Banel, j'avais découvert ma servante.
Et oui.
Qui ne s'arrêtait jamais d'ailleurs.
Qui ne s'arrêtait jamais, qui a duré une semaine entière, 24 heures sur 24. J'ai été un petit peu plus gentil là. Ça fera seulement 10 heures. Ça fera 10 heures, mais je voulais retourner au gymnase au Banel, retourner là où, pour moi, tout a commencé, là où j'ai construit pour la première fois le lien avec Avignon, avec le public, avec le festival, avec une épopée qui s'appelle Ma jeunesse exaltée, mais je ne suis pas sûr que ce soit la mienne. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je voulais essayer d'approcher, c'était la jeunesse exaltée d'aujourd'hui. Quelle est leur jeunesse exaltée? Est-ce qu'ils ont encore des motifs d'exaltation? C'est vrai qu'il y a quelques anciens, comme Céline Chéel, mais il y a surtout des jeunes acteurs étourdissants que j'ai lancé dans cette folie de faire 10 heures de spectacle, 4 fois 2 heures. Et ces quatre pièces sont autour du personnage d'Arlequin. Dans La Servante, le personnage qui symbolisait le théâtre, c'était Matamor, c'était un vieil acteur. Alors ici, dans Ma jeunesse exaltée, celui qui est le théâtre, c'est Arlequin. Et donc dans chaque pièce, c'est Arlequin contre la bêtise, Arlequin contre le capitalisme, Arlequin contre la violence. Arlequin, symbole du théâtre, mais aussi symbole de la jeunesse éternelle. C'est un personnage inouï, on en a très peu, qui ont traversé presque 5 siècles. C'est-à-dire qu'ils sont mis à la hauteur des mythes, il s'est mis à la hauteur d'un mythe, comme Arlequin. Et il renaît au 18e, puis renaît au 19e, au 20e plutôt dans la peinture, et puis là, il sera au gymnase de Babel, l'éternel Arlequin.
Quatre pièces, quatre canulars, on va dire, à la base de ces quatre pièces. Et puis, d'une certaine manière, parce qu'Arlequin, c'est un personnage de comédie. Donc, c'est une comédie, finalement, Ma jeunesse exaltée.
Bah oui, j'ai bien rigolé. Hein. J'ai bien rigolé, et puis...
C'est ce que vous avez fait de mieux.
Je crois que c'est ce que je fais de mieux. Oui, Pierre Vial.
Ce que vous écrivez de mieux.
Le grand acteur Pierre Vial m'avait dit ça. Il m'avait dit, c'est dans tes plaisanteries que le plus profond. Alors là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de plaisanteries. Donc, j'espère qu'on rigolera.
Ah, moi, sur les acteurs, tout à l'heure, vous m'avez dit, j'aime bien donner le bon rôle au bon acteur. Il y a un acteur qui va être, je pense, omniprésent tout au long de l'histoire. C'est Arlequin, évidemment. Alors, comment l'avez-vous trouvé, cet Arlequin?
Bertrand Droffignac est un acteur que j'ai rencontré à la sortie du conservatoire, il y a 4-5 ans, qui a fait quelques petits rôles pour moi, notamment des reprises de rôles. Et puis, l'été dernier, nous avons fait ensemble Hamlet, qui était déjà un monstre, ça durait 11 heures,
plus long.
Et enfin à dose homéopathique, une heure par jour, où il jouait le rôle d'Horatio, qui est un rôle secondaire dans Hamlet, mais qui dans mon adaptation était pratiquement le personnage principal. Et j'ai été émerveillé par son intelligence du texte, son originalité d'acteur aussi, sa manière d'employer le dire, son phrasé, les traits qui lui appartient en propre. Et c'est là que j'ai commencé à rêver un Arlequin. Donc je n'aurais pas pu écrire un Arlequin sans lui.
Écoutez, il y a quand même Céline Chéen, vous l'avez précisé déjà, qui était présente dans La Servante, puis Xavier Gallet également, du rôle d'Alphand, très important. Voilà donc pour cette épopée théâtrale au gymnase au Banel. Vive le sujet, on est le sujet à vif, vive le sujet. C'est une idée de Jean-Claude Carrière au départ, de Claude Saint-Élie qui continue à persister. Et là, on a en fait 8 artistes qui ont une carte blanche. Grâce à la SACD au Festival d'Avignon, ça se passe toujours dans ce petit écrin absolument merveilleux, un peu de matinée ou un peu d'après-midi, c'est le jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph.
Oui, c'est un petit lieu merveilleux, c'est souvent le matin, ce sont des pièces qui sont courtes, qui sont irrévérencieuses, qui sont indisciplinaires, qui combinent quelquefois les disciplines. C'était plutôt des couples incongrus. Autrefois, maintenant, on demande à un artiste de choisir lui-même son partenaire. C'est pour ça qu'on est passé du vif du sujet à vivre le sujet. C'est à peu près toujours le même titre et c'est à peu près toujours la même liturgie, mais il y a des amoureux fous de ce petit moment. Je sais, quand ma mère vient en festival, elle ne peut jamais rater ce petit moment-là. C'est vrai, c'est comme une petite secte dans laquelle on a pu faire des choses tout à fait étonnantes et dans laquelle on retrouve aussi des artistes qu'on a vus sur les plus grands plateaux. Je pense à Tamara Saadi, par exemple. Voilà, on avait vu en 2017, c'était un prix en patience. Là aussi, c'est une autre tradition de programmer le prix en patience qui, en général, a lieu au mois de décembre.
On a maintenant sur la page 14, avec All Over Winters, qui évoque un monsieur que je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je le verrai, c'était entre les deux Platanes et du Bois des Célestins, pour le festival 2019. Alors je me souviens de cette rencontre à la Fabrica, c'est la plus longue rencontre que j'ai eu l'occasion d'animer, 1h45, où pendant plus d'une heure, il nous a fait écouter de la musique. Il m'était rompé, peut-être qu'elle avait quitté là. Il mettait un disque sur la platine et puis on écoutait la voix de Maria Callas. C'est Raymond Hogue. Et Raymond Hogue, qui nous a quittés depuis, bah, il est au centre de la création d'Emmanuel et Germain.
Oui, c'est même un hommage et ça me touche beaucoup. Moi aussi, j'ai eu le bonheur de rencontrer cet homme extraordinaire qui avait changé la perception qu'on peut avoir du geste, du corps en scène, de la danse, de la représentation de l'humain, absolument délicat. Délicieux, indispensable. Donc je suis heureux que cette pièce lui soit adressée. Elle parle de Nymphéa parce qu'elle interroge la question de motif. Vous savez que Monet a fait et refait ces Nymphéa. Donc c'est pour les chorégraphes aussi une inspiration directe de savoir comment le même motif peut être décliné, transformé et arriver à conquérir une image du monde.
Voilà, All Over Winters.
Le Beurre Nymphéa est une pièce chorégraphique pour cinq interprètes qui ont tous un rapport différent à la danse et s'inspirent notamment des Nymphéas de Claude Monet. Que Claude Monet, dans plus de 250 toiles, il va prendre comme seul motif le bassin de son jardin de Tibériade. Ici au plateau, on a questionné également la notion de motif. Le motif comme élément pictural, sujet du principe de série, mais le motif également comme motivation ou raison d'agir. Et au final, à l'image des Nymphéas de Claude Monet, on a comme ça une sorte de jardin d'Éden hypnotique, sans cesse en mouvement, qui va mettre en valeur, qui va révéler ce qui nous meut et nous émeut au plus profond.
Ensuite, on va parler de la décentralisation des 3 km, qui depuis bien longtemps maintenant est devenue la décentralisation des 30 km.
Oui, on va un peu plus loin que 3 km.
Oui, voilà, on a largement dépassé le Grand Avignon. Alors là aussi, est-ce que vous êtes satisfait de ces tournées que vous organisez régulièrement depuis que vous êtes à la tête du festival avec Paul Rondin et...
Ben oui, je suis très heureux, surtout quand je vois au ministère de la Culture et que je vois de jeunes technocrates qui viennent d'arriver et qui disent « Vous devriez faire la décentralisation des 3 km ». Alors je dis « Vous savez que c'est moi qui l'ai inauguré ?»« Ah bon, je ne savais pas. » Donc c'est formidable quand on a une idée comme ça, notamment une idée socio-culturelle ou politico-artistique, et puis qu'on voit qu'elle est reprise par les institutions. Aujourd'hui, il est demandé à toutes les grandes institutions de faire la décentralisation des 3 km. Moi, j'avais choisi 3 km, ça s'opposait à l'idée des 300 km. Ça partait de l'idée que la décentralisation qui était allée de Paris à Avignon, elle était faite, qu'elle avait été réussie, qu'elle pouvait encore grandir, mais qu'elle était quand même réussie. Mais que par contre, d'aller d'Avignon à Montclar, c'est quelquefois, c'était 900 mètres. Et ces 900 mètres étaient plus difficiles à parcourir encore. Donc, il appartenait à ma génération d'essayer de les parcourir un peu. Et puis, je suis heureux parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont amusés à cette aventure qui, quelquefois, est éprouvante parce qu'on change de lieu tous les jours et qu'on est dans des lieux qui ne sont pas des lieux faits pour accueillir des spectacles, quelquefois des gymnases, quelquefois des lieux associatifs. Et puis, il se trouve que la qualité des spectacles qui ont été présentés ces dernières années dans ce cadre-là a témoigné aussi pour la force de cette idée. Donc cette année, c'est le Pierre-Yves Chapalin avec l'Oreille du Bois.
L'Oreille du Bois, donc Pierre-Yves Chapalin qui était déjà présent au Pénitent Blanc avec un spectacle qui s'appelle Où sont les œuvres. Et là, on va faire une grande découverte. On va découvrir une dame qui est souvent venue au festival comme metteur en scène, selon son quartier général, c'était l'autre scène à Bohème. Et là, on va découvrir Madeleine Noir, l'actrice.
Elle a arrêté d'ailleurs de son travail. Elle travaillait depuis toujours, elle a travaillé qu'avec le groupe Catalyse, des personnes en situation de handicap. Elle a fait un travail vraiment extraordinaire, on a fait 3 spectacles au Festival d'Avignon et là donc elle revient en tant qu'actrice. C'est une histoire de Parisiens qui veulent aller à la campagne, donc ça va assez bien avec
les néo-ruraux.
Voilà, les néo-ruraux. Puis c'est pas si simple, visiblement, pour eux de s'installer à la campagne.
Le Roi du Bois, l'histoire d'un couple qui revient à la campagne, puisque l'homme du couple est quelqu'un comme moi qui avait des parents qui tenaient une ferme. Et ce faisant, le couple se rend compte que c'est difficile de se réadapter ou de s'adapter tout simplement à la campagne, puisqu'il y a plein de choses à connaître, c'est un vrai métier, le métier d'agriculteur. Et en parallèle, il y a des fêtes qui se déroulent dans les bois aux alentours, des fêtes d'ordre dionysien, puisqu'il y a une débauche de sens, et que de plus en plus de villageois veulent rejoindre cette fête-là, au cœur de la nuit. Et forcément, ça perturbe et transforme de fond en comble l'esprit de ce village.
Anima, ce sera, il ne faudra pas le rater, parce que je crois que ça sera comme ce jour. C'est une installation proposée par Maël Poésie, qui est déjà venu au festival, avec notamment Ce qui est, ne se trompe pas, et puis sous d'autres cieux, ce très beau spectacle qu'elle avait donné au Poitre des Carmes. Et là, elle est accompagnée par une plasticienne qui est Noémie
Dalle et par une DJ assez célèbre qu'on appelle DJ Chloé. Alors j'espère que je vais réussir à faire comprendre la démarche de Noémie Goudal, qui n'est pas simple. Elle travaille sur l'histoire des paysages, en quelque sorte. Il appelle...
La paléoclimatologie.
Voilà, la paléoclimatologie. Elle montre comment un paysage sur des centaines d'années a évolué, et c'est la base de son inspiration. Ça peut paraître un peu abstrait. Donc là, c'est à la fois une installation, un moment immersif et un moment rencontre aussi.
Ce sera en plein air, puisque ce sera dans la cour de la collection
Anima, c'est une co-réalisation entre lui et moi. C'est un projet performance d'installation qui mêle à la fois la vidéo, la photo, la musique électronique et la présence d'une artiste en suspension dans les balles. Donc pour ce projet, on s'est inspiré des recherches des paléoclimatologues, c'est-à-dire l'étude des climats anciens qui permettent d'envisager les climats du futur. Donc la Terre a à peu près 4,5 milliards d'années, et une transformation permanente, une transformation extrêmement lente et vertigineuse. Et justement, notre performance, c'est la rencontre entre ce deep time géologique très lent et le temps de l'homme qui est plus rapide et plus court.
Et avec le projet, on va vraiment mettre les spectateurs au cœur d'une expérience plastique immersive qui puisse toucher à la métamorphose et à cette sensation d'être au cœur des temps entre passé, présent et futur.
Edouard Lop, d'ailleurs, est venu cet hiver présenter son spectacle, One Song, qui se jouera à la cour Saint-Joseph.
Avec... On rigole souvent beaucoup avec les spectacles d'Émile Farlop.
Ah oui, d'ailleurs, lors de la rencontre, vraiment,
ah ouais, d'ailleurs, oui.
Avec une chanson qui va passer en boucle.
Oui, de ce que je sais du spectacle, en tout cas, c'est une chanson qui revient toujours, et la chanson n'est jamais perçue différemment, et jamais perçue de la même manière, ni par le public, ni par ceux qui la chantent. Donc là aussi, il y a un effet motif, mais elle travaille sur quelque chose, je ne sais pas comment dire, entre l'analyse, le surréalisme, l'humour incongru, la transhumanité aussi, parce que quelquefois ces personnages sont réifiés et que la moitié de leur corps devient une tasse, un frigo, que sais-je. C'est toujours très beau plastiquement, très très drôle, et ça raconte toujours quelque chose de l'humain, comme elle seule sait le faire, en nous faisant rire, alors même qu'elle dit que toute son inspiration vient du deuil qu'elle a eu à la perte de son frère. C'est assez paradoxal. C'est une artiste totalement singulière. C'est très difficile d'en parler.
C'est vrai. One song, ce sera la prochaine Joseph.
So I'm making together with 12 people one song, and we will write a lyric. So it's not really meant to teach the audience a song, but it's meant to kind of sing, transfer joy, and at the same time be together in intensity, doing sports and making music at the same time. We will try to be together, and so it's an invitation to form a community and to be a unity in diversity.
Et ensuite, alors là vous avez trouvé votre maître, puisque mise de centre, c'est 7 pièces, 17 comédiens, 13 heures de représentation.
Oui.
Vous êtes petit joueur.
Non, mais nous on a plus de mots que lui en fait.
Simon
Falguière, qui vient avec le Nid de Cendre, c'est un cycle de pièces sur lequel il travaille depuis presque 10 ans. Je ne vais pas paraphraser la vidéo dans laquelle il raconte, je crois, assez bien quelle est cette aventure. En tout cas, c'est une aventure qui a un émouvant heureux, puisqu'il vient au Festival d'Avignon présenter cette somme incroyable avec une très très grande troupe. Il le fait à la Fabrica. Je suis heureux que la tradition aussi des spectacles au long cours, dans lequel
on éprouve un rapport tout à fait différent à la consommation spectaculaire. Ça ne devient plus la consommation spectaculaire. J'ai eu coutume de dire qu'au bout de quelques heures, on avait une forme de catharsis qui n'était pas la même qu'un spectacle d'une demi-heure à vivre le sujet. C'est tout à fait autre chose. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise, éprouver le temps différemment, accepter qu'il y ait des ralentissements, des tunnels, des longueurs, des reprises. Et puis surtout, il se crée dans la salle comme une petite communauté, celle qui a traversé cette aventure-là, que ce soit Ma jeunesse exaltée qui va durer 10 heures ou Une cendre qui dure 13 heures. Là, il y a quelque chose qui est vécu et dont il faut bien le dire qu'on ne peut le vivre qu'au Festival d'Avignon. Ça fonde aussi l'idée qu'au Festival d'Avignon, quelque chose d'exceptionnel se passe et que cet exceptionnel touche bien sûr au poétique et touche aussi au politique, mais de manière microcosmique. Mais après tout, ce qu'on arrive à faire ensemble au Festival d'Avignon pendant 3 semaines, on n'arriverait pas à le faire pour le reste de la planète.
C'est ce qu'on appelle l'utopie.
C'est plus simple.
Donc, à la Fabrica.
Le Nuit de cendre est une pièce théâtrale en 7 parties qui raconte l'histoire d'un monde coupé en deux qui réunit 17 comédiens au plateau pour jouer une 50aine de personnages. Le premier monde ressemble au nôtre, on l'appelle l'Occident. Le deuxième monde est un monde de contes, avec un roi, une reine, des princes et une princesse. Dans chacun de ces mondes, il y a un héros qui s'appelle Gabriel d'un côté et la princesse Anne, une héroïne, de l'autre côté. Et ces deux héros vont faire des odyssées pour tenter de se retrouver et, par leur réunion, sauver les deux mondes en péril.
Et ensuite, on va évoquer Anaïs Nin, qui est à la fois une artiste qui aimait les artistes, et qui va être évoquée par une autre artiste et une autrice, Agnès de Sartre. Et la mise en scène, c'est Élise Vigy, qui est souvent venue à Avignon, mais avec les Lucioles, pour celle du Fonzobo, notamment autour avec Coupi et rappel à l'esprit Gainburg. Et là, elle va présenter un spectacle qu'elle va mettre en scène à la salle de Motouille.
Oui, donc le texte est de Agnès de Sartre, inspiré d'Anaïs Nin. Et donc ces trois femmes sont présentes, puisque Anaïs Nin, le personnage même, et même plusieurs versions d'elle-même sont présentes dans cette pièce. Alors c'est drôle parce que ça fait presque écho au personnage où on attend ou on recherche Marguerite Duras. Il y a quelquefois comme ça des petits effets d'écho à l'intérieur des passerelles, à l'intérieur de la programmation qui, à mon avis, apporte de la cohérence au festival.
Alors, Anaïs Nin, elle n'a pas cessé de faire des avatars d'elle-même. Hein. Et avec Agnès Dessartes, donc, qui est l'auteur de la pièce, on est parti des nouvelles fantastiques d'Anaïs Nin qu'elle a écrites dans sa jeunesse de... Enfin, jeune femme, donc 28-31. C'est l'histoire donc d'une bande d'acteurs qui est en train de répéter ses nouvelles fantastiques. Et comme le fantastique appelle le fantastique, Anaïs Nin arrive depuis la nuit des temps. Et quelle Anaïs Nin arrive, on ne sait pas trop parce qu'il y en a plein. Et c'est un spectacle, je pense, qui interroge surtout comment on peut faire avec la fiction quelque chose de fantastique, de merveilleux, du réel.
Lady Magma, ce sera dans un lieu assez magnifique qui va de nouveau devenir un lieu de spectacle. C'est à la Chartreuse du Nez des Avignons. Il n'y a pas que le tunnel, il y a le cloître du cimetière. Il va y avoir 2 spectacles pour le cloître du cimetière cette année, à commencer par ce spectacle chorégraphique, Lady Magma.
Oui, elle s'est inspirée de la démarche des féministes des années 70. Bon, c'est une pièce dans laquelle le rapport entre la salle et la scène est décrispée en quelque sorte. Elle dit qu'elle aime l'idée que les spectateurs puissent entendre la respiration, le souffle même des danseuses, car il s'agit de danseuses. Et puis elles se sont interrogées avec la troupe sur ce que c'était que d'être mère et d'être danseuse. Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était impossible? Donc c'est un spectacle dont on peut dire qu'il est clairement féministe.
And I'm presenting Lady Magma, The Birth and Death of a Cult. It's a brand new show for us because we started the show playing it in 2019 and then it was stopped for COVID for 2 years. So now the cast have seen each other in 2 years and we've since become mums. It's a feminist ritual full of funk, groove, Max Roach drumming. We're going to do it outside for the first time in a flower garden. Sunset.
Toujours à Vinavis Avignon en 2016, je me souviens d'un spectacle qui m'avait laissé assez perplexe
parce que bon, c'était le spectacle donné à 18h, et là on était dans le noir, et puis il y avait des oiseaux qui volaient autour de nous. Il y avait un écrivain, un grand écrivain qui jouait, qui s'essayait au piano, et puis une actrice. C'était Marie-Vial, Pascal Quignard, et là Marie-Vial, on va la retrouver avec des oiseaux, mais dans un disons, contexte différent, surtout en plein air. Ça va être donc dans ce jardin qu'on aimait qui va se donner au cloître des Cestins.
Et toujours au service de l'œuvre de Pascal Quignard, dont je peux dire sans trembler qu'il est probablement un des plus grands auteurs français vivants, un des plus grands poètes vivants, même si son œuvre navigue aisément entre la critique, la pensée, l'aphorisme, l'allégorie poétique. Là, c'est l'histoire d'un pasteur, j'ai oublié le nom du pasteur, mais il faudrait que je le retrouve. C'est l'histoire d'un pasteur qui, bien avant un autre avignonnais célèbre, Olivier Messiaen, a tenté de retranscrire le chant, non seulement des oiseaux, mais même le chant du monde, le chant du vent, le chant de la goutte d'eau qui tombe dans un seau. Donc ce rapport à l'écologie, au monde, à l'ouverture, à la totalité comme totalité, on retrouve là des thèmes très chers à Pascal Quignard, qui est en quelque sorte, je dirais, un poète de l'éveil et de l'émerveillement. C'est celui qui nous rappelle qu'en dépit de tous les effondrements, de l'injonction de désespoir, qui est probablement une des armes d'ailleurs de la société capitaliste, il y a toujours notre capacité à nous émerveiller et quelquefois à nous émerveiller du plus simple. Et puis Marie-Pierre est accompagnée de Yann Boudot, le grand acteur.
Ce sera donc dans le cloître des Célestins.
Dans ce jardin qu'on aimait, de Pascal Quignard, est une histoire d'amour et de musique. C'est notre 5e collaboration. Pascal Quignard s'est inspiré d'un personnage réel, Simon Quince-Chenet, qui, 100 ans avant Olivier Messiaen, a mis en musique tous les chants d'oiseaux qu'il entendait dans son jardin, mais aussi les gouttes d'eau qui tombent dans un seau, le vent qui s'engouffre dans les chapeaux. Tous les bruits du monde étaient pour lui de la musique. Il a noté toutes ses partitions dans un livre qui s'appelle « Woods Not Wild ». Sa fille Rosemund publie son livre et là dans la pièce, c'est elle qui raconte l'histoire. Et c'est l'attention extrême portée au son, à l'observation des oiseaux, des saisons, des brins d'herbe, des gouttes d'eau, des pierres qui me bouleversent et que j'en ai rendu sensible. L'artiste n'est pas au centre de la création, mais se retire au plus loin de sa solitude pour laisser irradier le monde dans toute son intensité et sa splendeur.
C'était l'un des chocs du Festival 2021, c'est le musée. Et l'auteur du musée, Bachar Berkus, il va revenir sur votre scène à Bedem avec un spectacle qui s'appelle Milk, le lait.
Oui, j'étais parti à Haïfa où j'ai rencontré sa troupe et son théâtre. C'est une troupe palestinienne qui travaille à Haïfa. Le musée était un spectacle extrêmement dérangeant. J'avoue que j'avais été assez sidéré de voir ce spectacle-là dans ce contexte-là. Milk est un spectacle, à mon avis, différent. Il est d'abord c'est un spectacle plus grand, probablement plus spectaculaire, mais peut-être aussi un peu moins dérangeant et un peu moins violent que ne l'était le musée. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureux qu'on ait des Palestiniens, d'autres nouvelles que l'éternel conflit et la souffrance de leur situation. C'est important qu'on ait agrandi la conscience du monde à des pays qui n'étaient pas beaucoup venus au Festival d'Avignon, la Palestine n'étant pas encore un pays.
Milk is a visual performance, or how we like to call it here, my partner, a theatrical nightmare of post-disaster aesthetics. In Milk, we are concerned with a disaster, not with the cause of it, and not with a attack, but in fact with how disaster divides time into two, before and after, and creates a gap in between them. Milk is a story that happens inside this rift in time, about a group of women looking everywhere for their last mother.
Mais en tout cas, on a eu cette démarche, notamment pour le Sud et pour l'Orient, parce que c'était beaucoup plus facile de programmer des Allemands et des Belges, qui d'ailleurs toujours autant au festival, et heureusement, il y a une histoire entre la Belgique et le festival qui mériterait d'être racontée. C'est une très très grande histoire d'amour. Mais celle-là, elle existait déjà,
il fallait construire aussi une histoire d'amour avec les Grecs, avec les Portugais, avec les Espagnols, et aussi avec l'Orient, et aussi avec l'Afrique, et aussi avec l'Asie. Cet agrandissement du rayonnement international du festival, c'est vraiment une chose très importante. On n'en a pas toujours conscience quand on reste dans Vaucluse, mais quand on voyage et qu'on est le directeur du l'honorable festival de l'Union, on se rend compte qu'il y a un rayonnement inouï de notre festival. Et on peut en être fier parce que, au fond, nous y participons tous. Je le dis vraiment. Parce que quand on me demande, quand je rencontre des homologues partout dans le monde qui dirigent des festivals ou qui dirigent des théâtres, quelle est pour moi, à mon sens, la force du festival, je réponds toujours le public. Il n'y a pas un endroit au monde avec une telle fréquentation, une telle fidélité, une telle adhésion du public, y compris pour des choses difficiles. Je n'ai aucun homologue qui est le problème que j'ai, à savoir ne pas avoir assez de place à fournir au public. Ça n'existe nulle part ailleurs.
Mais que ce sera sur votre scène à Veden, et ensuite nous allons aller dans un lieu qui a été ouvert, sous votre règne, la cour minérale de la propriété Sainte-Marthe.
Ah oui, c'est magnifique.
À quel très beau lieu, voilà.
Oui, c'est un lieu magnifique, c'est vrai, et c'est un lieu que le public aussi s'est approprié. Après les premières années, on l'a programmé là, je me suis rendu compte que le public était devenu très attaché à ce lieu. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Même si le plateau n'a pas de dégagement, n'a pas de manteau d'arlequin, n'a pas de coulisses, il a permis des expériences théâtrales très belles. Et puis pour ceux qui sont nostalgiques, on est assis sur les gradins de la cour, les anciens gradins de la cour. Voilà, qui faisait un peu mal aux fesses.
Oui.
Ceux qui sont nostalgiques de ces crampes.
Vous avez aperçu pour les nuits Molière.
Vous pouvez le dire, voilà. Pour les Molière, on avait mal aux fesses comme grand grand de la cour. C'était formidable. Plein de plaisanteries.
Deux chorégraphes.
Parce
que c'est un chic d'Afrique du Sud.
Vatia Katleong invite toujours des chorégraphes. À travailler chez eux, dans les townships, et à faire un projet qui est à la fois un projet social et à la fois un projet artistique. Donc ils essaient de littéralement sauver des vies par l'expression de la danse.
Emma Pacatini est le nom du spectacle pour les 8 danseurs des Via Catalans d'Afrique du Sud. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une forte énergie, une forte envie de reprendre goût à la vie. Ils ont appelé ça d'ailleurs The In Project, le projet pour se guérir. Et ce qui va m'intéresser dans cette rencontre, c'est de comprendre leur nécessité, leur envie, leur besoin de se reconnecter, d'aller de l'avant, de danser.
Forma in forma, which means forms in forms. And in this piece, 8 dancers are using the forms and the technique of Pantula dance to find deviations and to find metaphors. To talk about a sense of identity and collective. And this group, through movement, are deconstructing and reconstructing their bodies and finding possibilities of also transforming the space. And they are doing it with a sense of urgency and vivacity.
Et ensuite, il y aura une nuit immersive. Alors là, ce sera uniquement le 12 juillet. Il y aura 3 représentations. On verra notamment des anneaux de fumée et des chorégraphies végétales.
Oui, mais c'est...
Confirmé.
Mais je confirme que la nuit fait partie du festival. C'est vraiment important. Il y a ceux qui aiment se lever tôt pour aller au sujet la nuit. Et puis il y a ceux qui aiment se coucher tard. Et quand on peut leur offrir comme ça des nuits ou pleines d'événements, ça fait partie de l'aventure festival.
Ça va se passer dans l'église des Célestins, plus
que ça. Avec le lieu du festival, là aussi. Moi, j'étais un amoureux de l'église des Célestins, mais vraiment, quand je suis arrivé, je ne voulais absolument pas abandonner ce lieu. Qu'il s'y passe quelque chose, c'est un lieu un peu difficile, quelquefois techniquement, parce que le son est notamment un peu difficile, parce qu'on ne peut pas y rentrer plus de 300 ou 350 spectateurs. C'est un lieu tellement majestueux, le seul fait d'y aller est vraiment en soi quelque chose d'extraordinaire.
Et nous sommes à la page 25 avec un rendez-vous qui est devenu là aussi une tradition, c'est un concert partagé avec le festival La Cita Musique, consacré aux musiques du monde, qui se tient dans la cour du collège Vernier. Et là, donc, il y aura ce concert partagé, ce sera autour de Marie Darbiche et la terre se transmet comme la langue.
Oui, avec la présence d'Elias Sambar, qui est son traducteur, qui l'a fait connaître en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mahmoud Darwish, qui est sans aucun doute un des plus grands poètes du XXe siècle, puisqu'il est mort il y a maintenant quelques années. Il est une sorte d'incarnation. l'occupation de la Palestine, et donc dans ce presque focus palestinien, il y a eu la deuxième présence, mais c'est une présence tutélaire, puisque c'est un poète, comment dire, je ne sais pas, je n'ai absolument aucune comparaison. J'ai eu le bonheur de traverser Ramallah avec Mahmoud Darwish, et les enfants vont lui demander des autographes comme un footballeur. Ça c'est vraiment extraordinaire, parce qu'à la fois c'est un grand poète et un poète quelquefois difficile, exigeant dans son écriture, et en même temps il est connu par les enfants comme si c'était un footballeur. Donc cette dimension, aujourd'hui qu'il est mort, il y a clairement un musée Mahmoud Darwish qui lui est consacré à Ramallah. Cette dimension, je crois que dans l'histoire entre une nation et un poète, il faut remonter jusqu'à Victor Hugo pour trouver quelque chose de cet ordre.
Ce sera donc le 14 juillet sous les platanes de la cour du collège Vernier.
Jamais parti, jamais arrivé, leurs corps sont des amandes dans les rues. Les places étaient plus vastes qu'un ciel qui ne les recouvrait pas, et la mer les oubliait. Ils distinguaient leur nord de leur sud, lâchaient les colombes de la mémoire de leur première tourelle, et capturaient chez leur martyr un astre qui les guidait à l'ocre de l'enfance.
On retourne à la chapelle des Bénédictins pour le petit chapeau en rouge, toujours les frères Grimm. Un petit chapeau en rouge, aujourd'hui corrigé par Das Plateau. Un petit mot peut-être sur Das Plateau, c'est un collectif.
Oui, c'est un collectif. Leur petit chapeau en rouge est comme Iphigénie, une version féministe. L'alliance entre le petit chapeau rouge et Bertrand est une alliance contre, évidemment, le grand méchant loup. Il ne saurait être autre que le grand vilain Patrick Arcand.
C'est un spectacle à partir de 4 ans et qui ne dure que 40 minutes, je peux le préciser.
Oui, mais il faut apprendre le féminisme dès le plus jeune âge.
Absolument.
Le petit chapeau rouge est l'un des contes les plus connus. C'est celui-là qui nous fait entrer une nouvelle fois dans la version puissante, positive et quelque part féministe des frères Grimm. Nous voulons entrer dans la complexité et en violence des sujets qui traversent. L'émancipation, la liberté, le danger bien sûr la pression, mais aussi le lien intergénérationnel et féminin, la légitimité de la violence, de l'autodéfense. Nous voulons montrer pour l'épaisseur politique de l'histoire, et notre spectacle se détractera visuellement, plastiquement, musicalement. Nous voulons montrer pour faire voir une attitude qui n'est pas un peu d'entre la vie comme on le pensait souvent, mais une véritable héroïne qui traverse les dangers, apprend ses mésaventures et retourne le sort pour conquérir sa liberté. Nous voulons montrer pour faire voir un conte qui est un véritable récit initiatique qui interroge encore infiniment notre monde contemporain et se révèle beaucoup plus subversif, on le pense.
Solitaire, Lars Noren.
Et pas n'importe quel Lars Noren, c'est sa dernière pièce, c'est son dernier opus. C'est donc presque un testament qu'il nous a laissé. C'est un Lars Noren un peu différent des drames psychoréalistes. C'est presque une pièce beckettienne, très abstraite, dans laquelle des personnages sont enfermés dans un carré de lumière sans très bien savoir pourquoi ils sont là et sans très bien savoir ce qu'ils doivent faire. C'est un théâtre sobre, presque austère, si j'ose dire. Sophia Le Jupiter était déjà venue au festival. C'est une grande maître de scène, une grande spécialiste de la Lars Noren. Elle avait d'ailleurs déjà monté un texte de la Lars Noren sur le... Pardon, je ne retrouve plus le nom de l'île où il y a eu ce massacre.
Elle a monté la Tigresse et puis l'un novembre.
Voilà, ce qui était la date du massacre.
Et ce sera donc dans les dîners de la chanteuse de Villeneuve-les-Avignon.
We are presenting Solitaire by Lars Noren. It's one of Lars' last plays and it has been described by some as a modern waiting for the door. In the beginning, we have 10 people standing very close together on stage in a rectangular shape. There is nothing visible that keeps them there, but still they cannot leave. They cannot take one step. They don't know each other. They don't know why they're there. They don't know where they are. And they don't have a clue of how they got there. And this situation, of course, leaves them very exposed and very vulnerable.
Tout à l'heure, vous avez évoqué, il y a quelques secondes, même vous avez évoqué Mahmoud Darwish, quatre poétesses
d'Arabie seront évoquées dans ce spectacle assez étonnant proposé par Henri-Jules Julien, qui nous avait proposé en 2019 Maman des Dîners, qui est un spectacle tout à fait adorable.
Tout à fait adorable. Alors, Shaira, ça veut tout simplement dire poétesse en arabe, donc c'est quatre femmes qui viennent du monde arabe, deux de Palestine, une d'Égypte et une du Maroc. Quelquefois c'est un spectacle, quelquefois c'est simplement une lecture, quelquefois c'est elles-mêmes qui sont présentes sur le plateau, quelquefois elles sont aidées par des actrices et des comédiennes, donc ça agrandit notre focus sur le monde oriental, sur le Moyen-Orient et particulièrement sur la Palestine.
Quatre poétesses venues du Maroc, de Palestine et d'Égypte et d'une génération différente se rendent sur le jardin et le gymnase du lycée Saint-Joseph.
Alors le projet Shaira'at est l'acte de naissance d'un élan collectif de poétesses et qui ont pour point commun d'écrire de la poésie en langue arabe et d'avoir créé des spectacles bilingues arabe-français de leur propre poésie avec elles-mêmes les performants. Et donc seront là toutes les quatre debout.
N'avez pas cité l'Italie tout à l'heure parmi les...
Oui, c'est vrai, parmi les pays du Sud, parmi l'Europe du Sud, peut-être parce que les échanges avec l'Italie ont quand même une belle histoire. Là, c'est un metteur en scène sarde qui montre la dernière pièce de Shakespeare. La dernière pièce de Shakespeare est assez peu connue, hein, étrangement. Elle n'est pas sombre, au contraire, c'est une pièce plutôt lumineuse, entrelacée de comédies, c'est un conte, donc vraiment, il est une fois. Je sais qu'en tout cas, dans cette version de la Tempesta, Alessandro Serra s'est intéressé aux rapports de domination et au colonialisme.
Ce sera à l'Opéra d'Avignon.
Et durant le lockdown, sono tornato a Shakespeare, ho letto molte sue opere, ho anche scritto un piccolo saggio, quindi credo di rileggerlo e mi ha veramente impressionato. Credo sia l'opera più, sia veramente l'omaggio di Shakespeare al teatro, per essere la sua ultima opera. E mi ha profondamente commosso, proprio perché stavo vivendo insieme ai miei compagni questo momento molto duro. Per cui fondamentalmente è stato questo il motivo, è stato quasi umano, insomma, anche una necessità di omaggiare il teatro con i mezzi del teatro per incontrare i miei compagni. E mi riferisco ai tecnici, mi riferisco agli attori.
Flash, proposé par Sophie Lensmont e Aurelio Mergola. Still Life.
Voilà,
ils étaient venus cet automne à la Fabrica et on avait passé un très agréable moment. Il n'y a pas de parole, c'est très organique et c'est souvent très drôle ce qu'ils font.
C'est très drôle, il n'y a jamais un mot, c'est même le principe même de leur création, mais c'est très narratif. Donc ils s'inscrivent sans mots vraiment dans l'idée il était une fois, d'ailleurs c'est le cas aussi de Nil, ce sont des spectacles de théâtre, des spectacles quelquefois narratifs comme les leurs. Ils sont entre Buster Keaton
et David Cronenberg.
Et David Cronenberg, parce que quelquefois c'est assez violent. Ils déclenchent souvent l'hilarité. Là, ce sont quatre petites histoires, quatre petites pièces. Ils ont d'ailleurs l'habitude de travailler sur les formes courtes. Il faut dire qu'on les avait découvertes d'ailleurs au Jardin de la Vierge, dans une pièce qui s'appelait Frozen, qui était absolument démente, même si elle ne durait que 20-25 minutes. Ce sont des poètes incroyables qui font une œuvre absolument unique, qui suivent un sillon qui ne ressemble qu'à eux, effectivement, toujours très drôle, mais aussi souvent socialement, politiquement très pertinent et très violent.
Et ce sera au gymnase Mistral.
Flèche, on a commencé à l'écrire. Pendant le premier confinement, on fait du théâtre sans parole, visuel. Ce qui nous plaît là-dedans, c'est d'aller chercher chez le spectateur, d'aller creuser dans sa rétine pour l'imprégner d'images.
Un peu comme si le spectateur était dans un bus et puis il voit au travers de la fenêtre ce qui se passe dans la rue. Souvent, il se passe plein de choses qu'on comprend sans même entendre ce qui se dit.
Vous détestez vos bons commémorations par rapport au fait que c'est votre dernier festival. En même temps, il y a quand même des artistes que vous avez accompagné avec votre équipe depuis le début. Tout à l'heure, on a parlé de Kirill Serebrennikov et Meng Jingui, qui nous avait offert un spectacle absolument dantesque, avec une roue qui tenait à la fois d'une roue hamster, vous savez pas trop ce que c'était, à l'Opéra Confluence.
Là, c'est la maison de thé.
La maison de thé, voilà.
Qui durait presque 4 heures.
Et là, c'est le 7e jour, ça va être au Cloître des Carmes. Ça fait partie des artistes, quand même, qui tiennent plus particulièrement à cœur.
Oui, moi j'ai eu vraiment l'impression en rencontrant Meng Jinhui que j'avais une sorte de frère en Chine qui visait un théâtre à titre personnel, je dirais très proche du mien, c'est-à-dire hautement poétique, mais aussi avec une vision exaltée, excessive, un jeu d'acteur qui dépasse les bornes et qui dépasse surtout le bon goût. Je pense que c'est un aspect différent de la maison de thé, qui est une sorte de grand opéra, complètement fou. Là, c'est probablement plus intime. C'est tiré d'un roman de Yu Hua, qui raconte simplement la vie d'un mort, l'errance d'un mort, qui retrouve les paysages et ceux qu'il a aimés. C'est donc un spectacle un petit peu plus mélancolique que cette grande, folle histoire de la maison de thé, qui racontait bien sûr l'histoire de la Chine.
讲述了现实的真实和荒诞，讲述了生命的幸福和苦难，讲述了眼泪的丰富和宽广，讲述了比恨更绝望、比死更冷酷的现实存在。在第七天里面，我们可以看到水在流淌，青草遍地。 树木繁茂，树枝上有美丽的果实，树叶呢都是心脏的模样。在第七天里面，我们可以看到一个女孩，她穿着婚纱，在她的死后的时间里面，走向美丽的死无葬身之地。
Après 2020, après 2021, on confirme, on va enfin découvrir le sacrifice proposé par la chorégraphe Nadia Massimo.
Et oui, qui a été annulée, d'abord parce que le festival a été annulé, puis l'année suivante, elle avait été reprogrammée, mais elle a eu des cas de Covid dans sa compagnie, elle n'a pas pu voyager, elle n'a pas pu venir à l'Afrique du Sud. Donc on espère, on verra le sacrifice de Nadia Massimo. Inspiré du Sacre du Printemps, dans lequel elle mélange à la fois des mouvements de danse traditionnelle d'Afrique du Sud et une formation classique. C'est un très très beau spectacle. Voilà, je crois les doigts, maintenant je suis un peu superstitieux.
Ce sera la Cour Saint-Joseph.
The Sacrifice is inspired by Igor Stravinsky's The Rite of Spring, and it is also inspired by my favorite choreographer, Pina Roche. When I was studying at the Performing Arts Research and Training Studios in Brussels, I got to learn a little bit of Spring, and that was such a privilege. But I also got to learn so much about the complexities of Stravinsky's music, with The Sacrifice, fusing the Tuana dance and contemporary dance. So Tuana dance is a dance from the Tuana. It's really beautiful, it's elegant, it's intricate, and it is inspired by small animals that move really fast, like I like it to do.
Un danseur, un artiste, un chorégraphe qui a été très présent avec nous cette année, puisque l'année dernière au festival il était dans la course Saint-Joseph, avec pas mal de danseurs, dans un spectacle Any Attempt Will End Crash Bodies. Puis on l'a redécouvert lors des hivernales de la danse, Rudy Opuy, dans un solo, où il dansait à partir de pièces de clavecin interprétées par une dame absolument extraordinaire qui s'appelle Elisabeth Solchenkamp, et qui est une claveciniste contemporaine, donc ce n'est pas vraiment la musique baroque. Et là, Yann Martens va revenir avec une claveciniste, mais cette fois-ci, il aura la cour d'honneur du Palais des Papes.
Oui, c'est tout à fait légitime parce que je pense qu'il est un des jeunes très très grands chorégraphes internationaux. Il a inventé une grammaire gestuelle qui n'appartient vraiment qu'à lui et étrangement toujours inspiré du clavecin, qui n'est pas l'instrument le plus utilisé dans la chorégraphie contemporaine. Donc il y aura une présence évidemment de la claveciniste, mais qui n'est pas Elisabeth Shoshnaka Megoshka Ifording,
qui est une de ses disciples,
une de ses disciples. Et c'est elle qui lui a fait découvrir cet instrument et le répertoire de ce. Le répertoire notamment contemporain. Il s'est intéressé à ce qu'elle avait écrit pour le clavecin. Et c'est une pièce dans laquelle il parlera d'écologie, pour ce que j'en sais.
Il y en aura quand même le Ballet Royal de Flandre.
Oui, demandez-moi.
Cette année, je reviens avec ma nouvelle création plutôt proche, qui est une collaboration avec OBV. Ce qui est court pour Opéra Ballet Flandre. Sur scène, il y aura 17 danseurs et clavecinistes. Et comme le titre le dit, le spectacle parle du futur proche, de la façon dont nous savons très bien ce qui nous attend et de notre incapacité à agir. La création est pour le Palais des Papes, et c'est une très grande honneur et un grand défi. Ce qui m'excite beaucoup et me fait un tout petit peu peur. J'espère vous retrouver là-bas.
Ce qui est vraiment extraordinaire, parce qu'on entend toutes ces voix, tous ces accents, tous ces langages, c'est que cette année, c'est vraiment le grand retour de l'international aussi, dans le festival.
Oui, on a toujours été très présent.
Là, on peut à nouveau voyager, c'est plus facile.
Oui, c'est vrai, en tout cas, on a un peu moins d'inquiétudes, même si on a quelques inquiétudes pour nos Chinois en ce moment. L'épidémie n'est pas finie et tout peut arriver.
Là, justement, on a une compagnie qui nous vient de Barcelone, elle compte des touristes. Ça faisait un moment qu'on les attendait à une autre collectif qui tourne un petit peu partout en Europe, dans le monde.
Oui, alors il y a chaque année dans la programmation un spectacle pour lequel je n'ai aucun élément de communication.
Voilà, c'est celui-là.
Et donc je ne sais absolument pas quoi dire, et je suis obligé de dire allez-y, ça va être génial. En général, ça marche bien.
C'est un spectacle qui dit que la fiction peut changer le monde. Ce que vous avez dit au début de votre
oui, ils ont travaillé sur le dripping de Pollock, c'est quelquefois entre la performance et la danse. C'est vrai qu'ils tournent partout dans le monde, on est très heureux de les accueillir. C'est un couple d'artistes absolument incroyable, mais j'ai beaucoup de difficultés à vous en parler. Heureusement qu'il y a une vidéo, et vous verrez après la vidéo, on n'en sait pas plus.
Una imagen interior es el final de un proceso de trabajo que después de un año, a partir de un término que nos hemos inventado que se llama ultraficción.
La ultraficción denomina esta estructura compuesta por una acumulación de ficciones culturales, sociales, políticas, incluso geográficas, que componen el hábitat del animal humano.
Serán cinco performers que van a construir una pieza a partir de una serie de materiales artificiales como va a ser el LED, el plástico, cartón.
Generar en el espectador, en quien mira, una sensación de extrañeza, de ambigüedad, de cierta inquietud.
Evidenciar la ficción, observar la construcción de la artificialidad, mirar cómo se genera la imagen, no la imagen acabada.
Una escenografía dúctil y multiforme, que adquiere varias formas y significados.
¿Conoce a Richard de Cabo?
Oui, Richard de, je connais bien. Oui, non.
La première pièce montée par Jean Villard, 1947,
et même plus que ça, la création de Richard II en France. La pièce, les Français ne connaissaient pas cette pièce. Alors Christophe Roch a une dramaturgie que je trouvais très intéressante parce qu'elle est tout à fait différente de la façon dont on a monté cette pièce habituellement. Parce qu'en général, Bolingbroke est le salaud. Là, c'est presque l'inverse. Bolingbroke est presque l'incarnation de la démocratie. Et puis il a un grand acteur, qui est Michel Espo, qui joue pas Bolingbroke, mais qui joue Richard II. Mais Richard II, c'est pour lui, c'est vraiment le souverain qui ne s'intéresse plus à sa nation, qui est, comme on dit, hors sol de nos jours, et qui donc fait vaciller la confiance dans le politique.
Ce sera au gymnase au Grenelle. Alors là aussi, c'est un très beau souvenir du spectateur, de nouveau place des Célestins, je me souviens, on était baignés comme ça par de la musique ancienne. On avait les apparitions d'un personnage androgyne qui venait, qui allait et qui venait. C'était absolument magique, on était hors sol. On était en apesanteur pendant un peu plus d'une heure, et tout ça grâce à François Chéniaud qui va revenir avec Tumulus, ce sera cette fois-ci à la Fabrica, et il sera accompagné d'un chef d'orchestre, Geoffroy Jourdain.
Oui, avec comme lui, des chanteurs-danseurs et des danseurs-chanteurs, avec le groupe s'appelle L'Écrit de Paris. Tumulus, c'est à la fois une construction funéraire, peut-être mangée par la nature, un rapport avec l'élément primordial. Et puis, c'est un spectacle qui est à la fois musical et à la fois dansé, comme François sait le faire, souvent inspiré de musique classique, puisque là, c'est le répertoire de Josquin Desprez et d'autres musiciens anciens.
Et ça va se passer donc à la Fabrica.
Tumulus, c'est une pièce de groupe pour 13 artistes, 13 interprètes qui se sont réunis depuis plus de 2 ans dans une partie commune de la danse et du chant. Un tumulus évoque aussi évidemment le nom de ces tombeaux antiques qui finissent par ressembler à des collines, à ces architectures rudimentaires, ces enflements sur lesquels la nature a repris ses droits. C'est un lieu très mystérieux, mais aussi un paysage qui joue un rôle important dans le spectacle.
Et ce répertoire de musique polyphonique de la Renaissance, c'est un peu le port à partir duquel on déroule, on explore d'autres répertoires sacrés jusqu'au XXe siècle avec une pièce de Claude Vivier, qui était une sorte de rêve d'art total. Nos deux disciplines s'associent autour d'une façon de s'accorder à utiliser le patrimoine, le répertoire,
par le biais d'une sorte de partition musicale, mais comme d'un véhicule, une sorte de mouvement permanent, comme une fresque, une bandelette qui se déroule, un bas-relief avec une danse macabre, un rendez-vous continu.
Le Liban, oui, Anna Jani est une femme qui court, et elle court tous les matins dans la ville de Beyrouth, pratiquement détruite, qui est devenue un véritable chaos. Et donc elle raconte ce chaos de sa ville. Mais dans cette course, elle rencontre d'autres femmes, elle rencontre notamment Bédé. Raconté comme ça, ça a l'air assez sombre, mais son génie d'actrice fait que c'est aussi très drôle. Mais elle témoigne pour l'effondrement d'une ville et peut-être même d'un pays.
Tandjouni, je suis Hana. C'est mon prénom. Je suis seule sur scène et je cours comme tous les matins dans les routes. Je cours après les histoires d'un pays amnésique. Au Liban, j'ai rencontré Médée qui a tué ses enfants par désespoir d'amour et à travers elle, celle que les mensonges politiques, les crimes de guerre, les impostures religieuses ont réduit à hurler ou à pleurer en silence. Comme dans une course de relais, chaque personnage passe le témoin au suivant, de femme en femme, de Hanan à Ibn Azahra jusqu'à vous. Et je vous invite à partager avec ces bébés, du Liban et d'ailleurs, ce désir profond et urgent de vivre dans un monde meilleur.
Il y aura deux nouveaux danseurs sur place des Célestins avec Silent Legacy. Avec deux danseuses, mais alors deux danseuses de style et de génération différentes.
Ah oui, Audrey Merrily, c'est une danseuse contemporaine, mais qui a déjà beaucoup dansé. Mais Amine Kerry, qui est aidée par J.R. Mantrip, est une danseuse de 8 ans qui pratique le crump.
Crump.
Donc c'est une sorte de street dance, mais assez narrative. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est tout. Petite fille danse quelques fois avec des grands messieurs très très costauds, et donc Maud Gladek a imaginé un duo entre ces deux danseuses, à la fois de traditions et de gestes différents, mais aussi de générations différentes.
Et ça va se jouer au Place du Cimetière.
Oui, le groupe Merci, qui fait revivre ses morts. Donc c'est un spectacle qui est venu dans le cloître de la Chartreuse il y a, je crois, 23 ans. C'est une histoire unique. Cela dit, la servante, c'était il y a 27 ans.
Oui,
le temps passe. C'est une histoire unique et c'est vrai, c'est un spectacle déambulatoire avec la langue étonnante de Patrick Kerman qui a disparu. Et qui est donc d'autant plus présent dans son absence. Et c'est vrai que ces morts sont souvent très très drôles quand ils racontent leur histoire.
La mastication des morts.
Imaginons un spectacle qui n'est pas tout à fait un spectacle.
Un cimetière qui ne soit pas tout à fait un cimetière.
Des morts qui ne soient pas vraiment morts.
Des spectateurs qui ne soient pas vraiment des spectateurs, mais peut-être des visiteurs. En fait, c'est tout ça, la mastication des morts.
Après une itinérance de 23 ans, les 178 ans reviennent reposer dans le grand cloître de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon.
Les vivants ne sont-ils pas des morts en vacances?
Un autre artiste que vous avez quand même accompagné d'une manière très très fidèle tout au long du Festival d'Avignon, c'est Ali Charour,
qui va nous donner une année. Oui, alors il a créé un lien avec le public d'Avignon. Et là, il travaille sur un cycle qui est consacré à l'amour, ça tombe bien parce que son dernier cycle était consacré à la mort. Donc on peut penser que ce sera un petit peu plus optimiste, même si là c'est de l'amour maternel dont il s'agit, et il raconte la vie de deux femmes qui recherchent le fils qu'elles ont perdu dans des guerres. Évidemment, il évoque toujours à sa manière le Moyen-Orient, cette
région dévastée, souffrante, mais toujours capable de raconter son histoire comme un poème.
Well, when my mother is a dance performer dedicated to all my mothers, to their small and intimate victories hidden in the houses of Beirut. In 2012, my cousin Hassan, he went to Syria and he never came back. His mother Fatima, she spent the last 10 years of her life looking for him. In parallel, Leila, the cousin of Fatima, she succeeded to protect her son Abbas from being a fighter and most probably a martyr. They are dancing together on stage, celebrating life and the memories of a disappeared family.
Et ensuite, eh bien, ce sera au Pénitentiaire, le soldat et la ballerine, qui n'est pas un conte de Fadrine, mais un conte d'Andersen, proposé par Robert Sandoz.
Mais le conte est réécrit par un des grands dramaturges allemands, qui est Roland Schimmel-Ferry.
C'est bien que vous le prononciez en
fait. Oui, non, mais je suis bien arrivé quand même.
Oui,
c'est pas si difficile en fait. Donc, c'est une version contemporaine de ce conte de l'amour impossible entre un soldat de plomb et une petite ballerine.
Ce sera du théâtre artisanal et imparfait.
Oui, Robert Sandoz qui érige le théâtre du Jura. Et il est particulièrement soucieux de l'enfance, du monde de l'enfance et des spectacles destinés à l'enfance.
Le soldat et la ballerine, c'est un conte d'Andersen qui est adapté là au théâtre par Roland Schimmel-Pfennig, l'un des plus grands dramaturges allemands vivants. Et c'est la première création en français pour le festival. C'est l'histoire de deux jouets expulsés d'une chambre d'un enfant pour arriver dans les néons du monde. C'est l'histoire d'une ballerine de papier et soldat de plomb. Ils tombent amoureux au premier regard. Et puis tant mieux pour eux parce qu'ils rendent toutes les péripéties qu'ils vont devoir affronter une fois qu'ils sont expulsés par la fenêtre. Elle est dans les airs parce qu'elle est légère comme du papier, mais au fond des mers parce qu'il est des égouts, parce qu'il est attiré par son poids de plomb. Ils vont se rappeler cet instant fulgurant, cet instant magique de leur amour partagé. C'est ce qui va leur permettre d'accepter ce monde d'adultes pour lesquels ils ne sont pas prêts.
Le prix Impatience, qui est un prix qui vous tient particulièrement à cœur, a été attribué cette année à Là où vous croyez être, il n'y avait personne, d'Anaïs Muller et Bernard Ponce. C'est un spectacle que j'ai eu l'occasion de voir, parce qu'il y a eu une représentation au Théâtre des Halles. J'ai trouvé que c'était entre Sanglé et une couverture pour moi.
C'est tout à fait vrai. Alors, le festival Impatience est un festival que nous avons créé, je dis nous, car l'autre est Agnès Trolli, quand nous étions au Théâtre de l'Odéon, avec l'idée qu'il fallait consacrer un festival à l'émergence, à des jeunes artistes qu'on ne connaissait pas, qui n'avaient pas encore de rayonnement. Alors dans ce festival, il y avait un prix, bon, le prix n'est pas central dans cette idée de festival, il n'y en a d'ailleurs pas à Avignon, c'est tant mieux, mais ça permettait de mettre le projecteur sur une troupe, une jeune troupe, une troupe qui n'était pas connue. Alors heureusement, ce festival Impatience a continué, après notre départ de l'Odéon, et notamment grâce à José Manuel au Gonzalez au 104. Et donc, nous avons établi ce pont présenté un peu en aveugle, puisqu'on ne sait pas quel sera le spectacle primé au Festival d'Avignon, comme une part de ce prix. Alors, ce spectacle-là est vraiment très, très drôle. C'est un peu à la recherche de Marguerite Duras, par ces deux oiseaux absolument incroyables, alors qu'ils pratiquent un humour raffiné, à froid.
Là où je croyais être, il n'y avait personne, voilà.
Et nos personnages de fiction, Ange Vert, qui vont essayer d'écrire une histoire.
À la façon de Marguerite Duras.
Cela s'en fait inspirer, voilà, ils trouvent un modèle, c'est fait.
Et puis, bah, voilà, ils vont écrire une histoire d'amour entre un frère et une sœur, parce que c'est assez bateau, quoi.
Et c'est assez décalé, et c'est assez...
insolent.
Insolent, je suis d'accord.
Non, c'est insolent.
C'est...
On ne sait pas trop à quoi on assiste, à vrai dire.
C'est peu référencé. Et c'est un spectacle pour les grands et...
Et les jeunes.
Voilà, les jeunes. C'est un spectacle dont on n'a pas idée quand on entre dans la salle, et quand on en sort, on a un petit truc, et on se dit, oui, c'est ça.
Ouais.
On joue du vrai pour découvrir le jour.
Ou l'inverse.
Et là, nous arrivons le 26 juillet, qui sera le dernier jour du Festival d'Avignon. Alors que vous l'oubliez ou non, ce ne sera pas un jour tout à fait comme les autres, quand même. Ce sera dernier jour de votre règne, d'une certaine manière. Et là, enfin, on va la retrouver.
Oh, oui.
Miss Knife.
Et c'est ça. Bon, bah oui, mais bon. C'était difficile de faire Miss Knife et le directeur du festival de Rignon. Hein. Un petit peu, honnêtement, c'est très fatigant. Mais moi, je ne chantais que quelques chansons. Puis j'aurai avec moi Angélique Kidjo, avec qui j'ai déjà chanté, et qui a chanté aussi dans la cour du Bal de Départ, qui est une artiste sublimissime, à la fois française, béninoise et américaine. Et puis les Dark Daughters, qui sont un groupe ukrainienne complètement sidérante, des femmes de théâtre et à la fois de musique. C'est avec l'Orchestre National d'Avignon. Les Dark Daughters aussi ont travaillé avec
l'Orchestre. Oui, on est en concert voilà. Quelques semaines avant.
Quelques semaines.
C'est terminé avec.
Donc, on rouvre avec les Russes et on pourra clore le festival avec les Ukrainiennes.
Là, ce sera à 18h et après, on ira dans la couverture du Palais des Papes. Là aussi, c'est une tradition, ça finit toujours par un concert au festival.
Oui, c'est une tradition. Les traditions sont faites quelquefois pour être dépassées. Mais en tout cas, celle-là, on y a tenu toujours. On termine le festival de manière festive à la fois et poétique, puisque Gaëtan Pest est une poétesse, malgré tout, même si elle demande qu'on utilise le pronom Yel pour parler de Yel. Donc, c'est une poétesse qui scande ce qu'elle écrit. Quelquefois, elle dit qu'elle appartient au monde de la musique, quelquefois plutôt au monde du poème. En tout cas, c'est une personnalité unique, mondialement connue, et c'est elle qui pourra clore ce festival d'Avignon.
Ce sera le 26 juillet, à la Coupe de l'Homme du Palais des Papes.
Mon prochain, mon belisse, mon belisse, mon belisse. Mon distance, mon reach, tu fais, I don't know, so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. I was so near to nowhere, I could feel everything in me. Pushing for certain to plenty. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release, your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less to see, less complex, more complete. Less push, more flow, please, let me let go. Get it all out of you, get it surprised. I was in a part of face, mostly idols. Chin deep in a bag of white eyes, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said, stop worrying, man, stop acting.
On l'a donc pour les spectacles. Alors après, évidemment, il y a toutes les animations, tous les forums, toutes les rencontres, à commencer par les ateliers de la peinture, du pied. Les ateliers de la peinture qui vont se partager cette année entre le lycée Célestin et les jardins de la bibliothèque Sécaton.
Oui, c'est exact. On est très fiers. Le festival n'est pas qu'une longue liste de spectacles. C'est aussi un lieu où on se rencontre, où on débat, où on prend la parole, où on n'est pas d'accord, où on est d'accord, où on écoute, où on est inspiré par des gens qui ont plus de compétences que nous sur certains sujets. Et puis surtout, c'est la dimension du gratuit qui me semble très important. Il y a une sorte d'université d'été qui s'est créée pendant ces trois semaines. Alors, si vous prenez le livre du festival, il y a véritablement quatre pages, toujours d'exception. Il y a beaucoup de grands penseurs qui sont heureux de venir rencontrer le public du festival. Et puis, on retrouvera notre beau jardin Sécano, presque tous les jours avec des rencontres et aussi avec une représentation de l'Oreille du Bois, le spectacle des 3 km, qui là n'aura plus qu'à faire 3 mètres.
Ce sera le spectacle des nombreuses inscriptions gratuites le 18 juillet, toujours les territoires cinématographiques au cinéma italien. On pourra voir d'ailleurs le film de Kirill Zelnikov dans La fièvre de Petro, qui est un film absolument hallucinant. C'est un véritable monument cinématographique ce film. Et puis on va fêter également les 30 ans d'Arte. Hein. Cette année, avec toute une série de projections. Il y aura également les lectures de France Culture, dans le jardin de Louis Calvé. Vous m'arrêtez si je vous bêtise. Voilà, avec l'ouverture des lectures de France Culture, ce sera avec Daniel Auteuil, d'ailleurs, qui va d'ailleurs dire et chanter. Il y aura également la venue de Mathieu Kassovitz et de Sofiane Zermani, qui avait obtenu un très grand succès avec son interprétation de Gatsby le Magnifique, et là qui va revenir avec des variations Shakespeare. Et puis les 10 ans de « Ça va, ça va le monde » avec Eric Fiussi.
Et puis le souffle d'Avignon,
oui.
Que nous faisons avec les scènes d'Avignon, dans lesquelles on retrouvera Agnès de Sartre et Marcel Bozonnet.
Voilà, dans les deux lectures proposées par le festival. Avoir hâte aussi, c'est très bientôt, ouais, c'est les 15 et 16 mai prochains. Là, c'est uniquement sur Instagram. Hein.
Absolument. Je voulais préciser, et puis aidez-moi à porter la bonne parole, qu'il y a deux cartes de tarif de réduction très importants. La première, c'est la carte festival, elle s'adresse absolument à tous. C'est une carte qui coûte 20 euros et qui donne droit à entièrement à des tarifs réduits. Donc, au bout de trois spectacles, elle est déjà rentable. Et l'autre, c'est la carte 3 clés qui ne coûte qu'un seul euro, mais qui s'adresse aux moins de 26 ans et à ceux qui sont bénéficiaires des minima sociaux. C'est très important parce que pratiquement avec cette carte, on peut avoir tout le festival à vélo. Passer le mot, il y a encore trop de gens jeunes qui ne savent pas qu'il y a de telles possibilités tarifaires. Et il ne faut jamais oublier que si nous avons des subventions, c'est d'abord pour subventionner le public. Les subventions ne s'adressent pas seulement aux artistes, mais d'abord au public. C'est grâce aux subventions, c'est grâce à l'effort du théâtre public et du ministère de la Culture et des collectivités locales que nous pouvons offrir ces chefs-d'œuvre à des tarifs aussi bas et donc continuer l'aventure de la démocratisation culturelle.
Puis il y a également des propositions pour les jeunes spectateurs, notamment des reportages que les jeunes réalisent pour la web TV. Ce sont des reportages vraiment de très très belle qualité. Et puis ici, j'en
suis. On peut les voir sur le site depuis plusieurs années avec le collège Anselme Mathieu, qui faisons cet extraordinaire travail. Et il y a vraiment des petites perles de reportages. Initier les collégiens et les lycéens au monde du théâtre, c'est pas simplement à l'actorat ou au métier de la mise en scène. Il y a beaucoup de métiers qui sont croisés dans ce que nous faisons, et ça peut aller du maquillage jusqu'à l'apprentissage de caméra.
Donc pour la web télé, pour J'y suis, j'en suis. Là, par contre, si vous avez des enfants, il faut s'inscrire dès maintenant, dès demain matin, pour pas trop tarder. On va peut-être se donner rendez-vous pour l'ouverture exceptionnelle des réservations pour le 21 mai et 10 000 places sur internet uniquement. Uniquement pour 10 000 places. L'ouverture des ventes en ligne, c'est le 4 juin, pour préciser. L'ouverture des ventes par téléphone, c'est le 7 juin. L'ouverture des ventes au guichet, c'est le 11 juin. Et on peut terminer en disant qu'on vous retrouve samedi, c'est à 19h, dans la salle de la Mouette de la maison Jean Villard, aux côtés d'un certain Thiago Rodriguez. Et vous nous lirez des extraits d'un texte d'Olivier Pie qui ne s'est joué qu'une seule fois dans la Coupe de la Bataille des Barres en 2006. C'était l'énigme du Pilar. Vous allez faire tous les personnages à vous.
Tous les personnages à vous. Merci à tous. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cette présentation de saison de la 76e édition du Festival d'Avignon. Vous pouvez retrouver toutes les informations du festival ainsi que la billetterie qui ouvrira sur internet le 21 mai en lien de ce reportage. À très vite sur Fréquence Mistral Avignon pour parler culture et théâtre.